Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à l'Iran, avec un regard sur la situation après les manifestations de ces dernières semaines et le sursis octroyé à l'accord nucléaire avec l'Iran par le président américain. Un ultime sursis a prévenu Donald Trump, qui en est à son troisième report, d'un accord signé par son prédécesseur Barack Obama, qu'il ne cesse de dénigrer et dont il menace de se retirer. Nos invités, Azadeh Khian, professeure de sociologie et directrice du CEDERF à l'université Paris Diderot Paris 7, auteur de nombreux ouvrages, dont La République islamique d'Iran aux éditions Michelon et L'Iran, un mouvement sans révolution chez Michelon. Bonjour.
Bonjour.
Bernard Ourcade, directeur de recherche au CNRS, auteur de Géopolitique de l'Iran paru chez Armand Collin. Bonjour.
Bonjour.
Et Thierry Coville, économiste, chercheur à l'IRIS, auteur de Iran, la révolution invisible aux éditions La Découverte et co-directeur pour la revue internationale des études de développement du numéro intitulé L'économie politique de la République islamique d'Iran aux éditions de la Sorbonne. Bonjour.
Oui, bonjour.
Washington continue donc de souffler le chaud et le froid au-dessus de l'accord sur le nucléaire iranien. Ce nouveau sursis en provenance des États-Unis a été annoncé vendredi. Comment analyser cette décision qui était, il faut le souligner, particulièrement empreinte de tension et qui a été précédée d'une mobilisation européenne soutenue? Comment savoir si cette pression de l'Europe a joué sur la décision américaine, au demeurant accueillie avec un soulagement certain en Iran? Donald Trump veut-il gagner du temps? Les manifestations en Iran l'ont-ils fait changer d'avis? Agit-il par derrière pour tuer l'accord? Cette décision révèle-t-elle les désaccords entre les conseillers de Trump et la base électorale du président américain? Quatre possibilités ouvertes sur cette décision, Azadeh Khian.
Je pense que c'est tout ce que vous venez de dire. Hein. C'est un ensemble, mais effectivement, la pression des Européens était grande, y compris les Russes et les Chinois, c'est-à-dire tous ceux qui ont signé l'accord sur le nucléaire, étant membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, d'une part. D'autre part, les conseillers de Donald Trump également ont fait pression afin qu'il ne change rien pour le moment. Mais je pense que ce qu'il est en train d'imposer, parce qu'il a demandé aux Européens de faire pression sur l'Iran afin de changer l'accord sur le nucléaire, les termes de l'accord sur le nucléaire avant 10 ans, ça, on sait que ça ne va pas être accepté par l'Iran et on sait aussi que les Européens auront du mal à vouloir changer ou à pouvoir changer les termes de l'accord. Donc, en plus de ça, il introduit des questions qui n'ont rien à voir avec la question de nucléaire et la prolifération du nucléaire. Donc, dans l'ensemble, néanmoins, je ne pense pas que Trump ait réellement changé de position dans la mesure où, bon, il impose de nouvelles sanctions contre 14 personnalités et institutions iraniennes, d'une part. D'autre part, je pense que du fait de ces négociations avec un certain nombre d'opposants au régime islamique d'Iran, notamment le fils du Shah, il est peut-être plus que jamais décidé à contribuer au renversement du régime islamique d'Iran. Donc il me semble que ces pressions sur le nucléaire ont effectivement une visée politique plus que la question de la non-prolifération. Et donc il faut attendre, voir peut-être ce que tout cela donne dans 3 mois. Mais ça m'étonnerait fort que les Iraniens accepte de changer l'accord sur le nucléaire et que les Européens aillent dans le sens de Donald Trump. C'est-à-dire que il y a un certain nombre d'observateurs aussi américains qui l'avaient dit que cette position de Trump reviendrait à déclarer la guerre à l'Iran. Donc dans 3 mois, si il sort les États-Unis de l'accord sur le nucléaire, cela reviendrait à déclarer la guerre contre l'Iran.
Bernard Ourcade, les Américains ont-ils, d'après vous, déjà pris la décision de sortir de l'accord? Et en d'autres termes, Donald Trump serait en train d'essayer de gagner du temps. Et pour ce qui est de changer les termes de l'accord, pour les durcir, on l'a bien compris, qu'est-ce que l'on sait de ce que les Américains souhaiteraient?
Je vois, cet accord sur le nucléaire, c'est le nucléaire d'un côté, mais c'est aussi la réintroduction de l'Iran dans la communauté internationale du point de vue économique. Or, de facto, l'accord sur le nucléaire est respecté par les Iraniens, même au début, les Américains n'y ont pas touché, mais ils n'ont pas respecté l'accord du point de vue économique. Les sanctions, de facto, ont été levées sur le nucléaire, mais maintenues sur les droits de l'homme, le terrorisme du Hezbollah, etc. Autrement dit, physiquement, concrètement, les sanctions n'ont pas été levées par les États-Unis.
Elles l'ont été par l'Union européenne, on
peut dire. Par l'Union européenne, mais pas par les Américains. Ouais. Et donc, les Américains disent aux entreprises françaises qui voudraient aller en Iran, investissez en Iran, mais je vais vous attaquer aux États-Unis. Et donc, la différence entre l'Iran aux États-Unis, c'est de 1 à 1000, du point de vue commercial, dont les entreprises européennes ne peuvent pas partir en Iran. Et donc l'Iran est bloqué dans sa renaissance. Et donc, pour les Américains, le nucléaire, ils jouent un peu avec cela, en quelque sorte. L'accord, de mon point de vue, ils ne s'en retireront pas, parce qu'avec la Corée du Nord qui est là, l'image des États-Unis, il y a dans le Congrès américain, qui est pourtant encore pire que Trump concernant l'Iran, globalement. Mais un certain nombre de démocrates et même de républicains qui disent c'est la parole des États-Unis, dont l'honneur de l'Amérique est en jeu. Donc, à mon avis, l'accord sur le nucléaire, sur le plan formel, va être respecté, sur le papier. Mais dans les faits, non. Parce que, effectivement, les États-Unis estiment qu'aujourd'hui, on va faire tomber le régime iranien. Ça fait exactement 40 ans que ça dure. Et donc, le problème est de comment gérer cette crise où tous les facteurs sont en jeu, et en particulier les facteurs européens. Je crois que le coup de téléphone de Macron à Trump quelques jours avant, c'était pas Macron seulement, c'était représenter toute l'Europe. De dire aux Américains, nous ne pouvons pas être en conflit global avec vous. Donc, trouvons une entente. Certes, je vais essayer d'inciter les Iraniens à être plus modérés ici et là, mais là encore, on y reviendra peut-être dans la discussion. Demander aux Iraniens de toucher au programme des missiles, c'est illusoire. Et demander aux Iraniens de ne pas avoir d'influence régionale, alors que ce sont les Arabes Saoudites qui a pris Mossoul et Raqqa et qui dominent la région, c'est utopique également. Donc, de chercher à obtenir quelque chose dans un domaine où on ne peut pas obtenir est également un danger. Mais c'est le grand débat qu'il y a actuellement entre Iran et Europe.
Thierry Coville.
Je pense que le problème avec Trump, ça part tellement en toutes les directions, c'est qu'on a du mal à... Et c'est un peu sa tactique, d'ailleurs, je pense. Oui. Mais si on regarde les options qu'ils ont, effectivement, les États-Unis, c'est où ils se retirent de l'accord ou ils se retirent pas. Et je pense que le malaise de Trump, et je pense que ce que lui-même a compris, c'est que si les États-Unis se retirent de l'accord, déjà, la crédibilité des États-Unis est quand même relativement faible dans la région. Alors, elle est, je pense, quasiment nulle en Iran. Alors là, il va se retrouver complètement isolé, parce que rappelons quand même, parce que quelquefois on est un peu surpris, l'Iran respecte les termes de l'accord. Il faut quand même comprendre. C'est-à-dire que cet accord a été signé en juillet 2015, c'est-à-dire qu'ils ont limité leur programme d'enrichissement d'uranium à 3%. Donc ils respectent l'accord. Donc concrètement, il n'y a aucune raison objective de sortir de cet accord pour les États-Unis. C'est même les Iraniens, comme ça a été rappelé, qui pourraient avoir des motifs de sortir de cet accord, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de sanctions américaines qui restent, qui empêchent les grandes banques de revenir en Iran. Donc il n'y a aucune raison d'annuler cet accord. Donc si les États-Unis, c'est là où le Trump essaye d'un petit peu de faire diversion, si les États-Unis sortent de cet accord tout seuls, leur crédibilité est zéro. Les Européens ne les suivent pas, les Russes, les Chinois ne les suivent pas. Alors on verra ce qui se passe, mais disons leur crédibilité est zéro. Deuxième option, et à mon avis ce qu'essaye de faire Trump, à mon avis ce qu'il aimerait, c'est que il rajoute sans arrêt des sanctions, il empêche l'Iran d'avoir le bénéfice. Par le fait que les grandes banques européennes refusent d'aller en Iran, l'Iran n'a pas les bénéfices de tout ce qu'il voudrait de cet accord. Donc, ce qu'il espère, c'est que l'Iran lui-même sorte de cet accord. Les durs en Iran commencent d'ailleurs, disent depuis un moment, écoutez, cet accord ne nous apporte rien, pourquoi on le respecte? Là, effectivement, dans ces cas-là, c'est tout bénef. C'est-à-dire que l'Iran sort de cet accord et les Américains peuvent avoir le beau rôle en disant, regardez, c'est pas nous. Mais, comme on le sait quand même, les Iraniens sont pas trop bêtes. Ils ont bien compris la stratégie de Trump. Et là, on voit bien, c'est quand même les réactions iraniennes sont assez mesurées en disant, nous, on reste. On pense que c'est un bon accord. Faites ce que vous voulez. Même si vous sortez, on verra ce qu'on fait. Donc, je pense que là, il joue le droit international et, à mon avis, il a tout à fait raison. Et on voit à quel point Trump est isolé.
Je voudrais juste ajouter que, auquel cas, je pense qu'il revient à l'Europe de trouver une solution afin que l'accord sur le nucléaire soit aussi respecté côté européen, c'est-à-dire que effectivement les investisseurs européens puissent aller en Iran et que les transactions bancaires puissent avoir lieu. Faut-il changer la devise qui est actuellement en dollars? Faut-il trouver d'autres moyens, d'autres solutions? Mais l'Europe doit aussi agir et on peut pas attendre et on peut pas garder ce statu quo actuel qui est au détriment de l'accord même sur le nucléaire, comme ça vient d'être dit. Et l'Europe, il faut que l'Europe agisse, je veux dire, face à ces tergiversations, face à ce que fait Donald Trump.
Alors l'Europe doit agir, Bernard Ourcade, il est vrai qu'elle est elle est tétanisée, l'Europe, avec tous les procès qui peuvent être faits aux entreprises qui ont pour monnaie le dollar, pour leurs transactions, leurs investissements à l'étranger.
Oui, les Européens, les compagnies internationales en général, n'acceptent pas le diktat américain qui est illégal par rapport aux accords de l'Organisation mondiale du commerce. Les Américains se comportent en état voyou, en quelque sorte. Et donc, dans une Europe qui est en train de sortir de la crise, où l'emploi est une question importante, le fait de ne pas pouvoir investir en Iran, qui n'est pas un marché, c'est pas le marché chinois, mais c'est extrêmement important quand même, ça bloque beaucoup de gens. Il faut bien voir que le ministre des Affaires étrangères, Zarif, était à Bruxelles avant-hier. juste le jour où Trump prenait sa décision.
Ce qui n'a pas beaucoup plu hier au président américain, qui s'est senti un peu piégé ou en tout cas isolé.
Isolé, mais c'était le but du jeu. Ouais. Et récemment, un officiel iranien est venu parler à Paris de ce qui pourrait se passer. Il dit, si Trump se retire, nous comptons de voir ce qu'en feront les Européens. Et effectivement, ne pas oublier ce que l'accord de 2003. En 2003, De Villepin, Stroh et Fischer, trois ministres d'affaires étrangères, se rendent à Téhéran un beau matin, discutent avec Rouhani, qui était à ce moment-là, non pas président, mais responsable du Conseil national de sécurité iranien, et négocient le premier accord du nucléaire. L'accord a mis 12 ans à être finalisé, mais le premier accord était là par les Européens, qui ont imposé aux Américains qui venaient d'envahir l'Irak quelques semaines auparavant. Et donc, cette opposition, les Européens l'ont déjà, et les Américains le savent. Et ils savent très bien qu'avec les crises qu'il y a en Asie, avec la crise de Corée notamment, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Avec la Turquie également, qui joue un rôle particulier dans l'OTAN, les Américains, qui sont quand même les champions de l'OTAN, ne peuvent pas faire n'importe quoi. Mmh. Et donc, on peut espérer que la crise va se dérouler non pas sur le domaine du nucléaire, ils vont respecter l'accord de mon point de vue, mais de facto, il faut faire comprendre aux Américains qu'ils ne peuvent pas maintenir les boycotts.
Azadekian, après ça, j'ai une question sur les États-Unis. Azadekian.
Oui, rapidement, il ne faut pas oublier que Donald Trump est aussi à l'écoute de ses alliés dans la région de Moyen-Orient, en l'occurrence l'Arabie Saoudite et l'Israël, qui étaient dès le départ contre l'accord sur le nucléaire et qui, de nouveau, ont fait pression sur Trump afin de revenir sur l'accord sur le nucléaire. Mmh. On sait que Netanyahu a même appelé le président Macron. Donc, je pense qu'il s'agit pour les États-Unis de soit adhérer entièrement à l'accord sur le nucléaire, auquel cas équilibrer sa politique régionale, soit continuer à avoir des alliés comme alliés Arabie Saoudite, un certain nombre d'autres pays arabes de la région du Golfe, Persique en particulier, qui sont contre l'accord, hein, et auquel cas, effectivement, les tensions vont continuer. Je pense qu'un certain nombre de pays européens sont aussi plus ou moins dans la même situation.
Vous pensez à qui ?
Je pense à la France, par exemple, même si la France a une position déclarée nette par rapport à l'accord sur le nucléaire, mais la France n'a pas encore équilibré sa politique régionale, en particulier par rapport à l'Arabie Saoudite, parce que les intérêts militaires, économiques et autres de la France en Arabie Saoudite sont et aux Émirats Arabes Unis. D'ailleurs, l'allié principal de la France dans la région est telle que c'est difficile pour la France de rééquilibrer cette politique.
Thierry Coville.
Oui, je pense que Berlin a tout à fait raison de rappeler à quel point c'est important que, je veux dire, cet accord conduise à des effets positifs pour l'économie iranienne. Mmh. C'est important pour l'accord lui-même parce qu'il aura plus de crédibilité, notamment en Iran, s'il voit qu'il n'y a pas d'incidence positive économique. C'est important pour les entreprises françaises et européennes parce que actuellement, sans investissement européen en Iran, il y a plein de secteurs où c'est bloqué, les télécommunications. Et puis c'est important. Je veux dire, les Iraniens sont sortis quand même récemment parce qu'ils n'avaient pas assez d'emplois, etc. Ces investissements étrangers peuvent permettre de créer des emplois pour les jeunes Iraniens, notamment diplômés, et donc donner quand même une certaine respiration à la société civile iranienne. Donc, ce qui se passe, c'est que la stratégie américaine, elle n'est pas bête. Hein. Ils créent tellement d'incertitudes qu'ils augmentent les risques pour les entreprises privées européennes. Vous n'allez pas me dire que les Européens, avec leur puissance économique, n'ont pas les moyens de donner des garanties, notamment aux banques européennes, mais c'est une question de volonté politique. Là, je pense que on n'est pas devenu ennemi des États-Unis, mais je veux dire, là, on a des intérêts à défendre, et je pense que les Européens, faut qu'ils agissent vite.
Alors, justement, est-ce que ce qui se passe, le chaud et le froid que fait souffler Donald Trump, révèle, d'après vous, ce qui se dit, une certaine faiblesse de la Maison-Blanche sur la question iranienne? On évoque l'idée, à ce propos, que Donald Trump envisage un envoyé spécial sur l'Iran qui pourrait négocier avec les Européens sur le deal nucléaire et fomenter éventuellement une réponse plus forte à l'attitude de l'Iran dans la région. La politique iranienne des États-Unis en état de faiblesse, Bernard Horcat ?
Ils sont surpris, comme l'Arabie Saoudite et Israël, par le fait que l'Iran est là, existe. Pendant 40 ans, l'Iran était au congélateur, bloqué par des sanctions, n'existait pas. Aujourd'hui, ils se rendent compte que cette ouverture de l'Iran, c'est pas le fait du gouvernement iranien, c'est le fait d'une société, d'une dynamique. Et donc, il faut bien accepter le fait qu'il y a 80 millions d'habitants en Iran, qu'on peut pas rayer l'Iran de la carte. Et ceci est inconcevable pour les pays voisins qui dominaient la région, Israël et l'Arabie Saoudite. Et il faut donc convaincre ces pays que l'Iran existe. Vous n'aimez pas les Iraniens, d'accord, ils ne vous aiment pas non plus, mais trouvons un accord. Et c'est pour ça que la crise pourra peut-être mener à une discussion sur le fond. fond, à essayer de trouver un accord de sécurité régionale. On parlait de l'accord d'Helsinki, par exemple, qui a permis à l'époque de la guerre froide à ce que l'OTAN et les Soviétiques ne fassent pas de guerre. Il y a donc deux ensembles politiques dans la région, l'un allant de Beyrouth à Kaboul d'un côté et l'autre de Oman à l'Égypte, qui s'opposent. Ils s'opposeront longtemps. Il faut trouver un moyen maintenant politique, et c'est là que l'Europe et les États-Unis peuvent jouer un rôle important pour stabiliser la région et trouver un accord de sécurité régionale, et en acceptant qu'il y a effectivement deux gendarmes dans le Golfe, les monarchies pétrolières et l'Iran, qui devront de facto s'entendre.
Alors, ce sursis accordé par Donald Trump, il y a maintenant 4 mois, un petit peu plus que les 3 mois initialement établis. La question iranienne, pour l'Union européenne, c'est un dossier prioritaire. Qu'est-ce qui peut se jouer pendant les 4 mois à venir, Azadeh Khan?
Écoutez, potentiellement, et ça c'est aussi très lié aux événements récents en Iran, aux émeutes donc de fin décembre et janvier, je pense que le régime islamique d'Iran doit opérer aussi un certain nombre de changements dans notamment sa structure économique, mais également politique, parce que ça aussi c'est très important pour donner des gages, si vous voulez, aux Européens, pour dire que le régime ne va pas vers le durcissement, mais vers davantage d'ouverture, ce qui n'est pas actuellement le cas, et auquel cas effectivement ça sera un discours pour les Européens dans leurs négociations avec les États-Unis. Donc je pense que ces deux dossiers sont très liés. L'Europe ne peut pas non plus soutenir un régime qui réprime, un régime qui est en train de se durcir, hein, et en même temps plaider uniquement pour le respect par l'Iran de l'accord sur le nucléaire. C'est-à-dire que les questions quand même des droits humains et les questions de l'ouverture politique de l'Iran étaient aussi attendues comme conséquence de l'accord sur le nucléaire, à la fois par les Iraniens, par la population iranienne, mais aussi, on le sait, par des Européens. Donc voilà, ce sont les deux dossiers internes et internationaux sont effectivement liés. Et là, je pense que les Iraniens, c'est-à-dire le régime iranien, doit commencer à faire des pas pour garantir l'ouverture à la fois économique et politique de ce pays. On sait que le poids des structures monopolistiques en Iran sont tels que je ne suis pas sûre que les investissements réellement européens en Iran puissent profiter dans l'état actuel de l'économie iranienne à la population et à la création d'emplois.
Oui. Bernard Hourcade.
Je crois effectivement que dans les 4 mois, en principe, Emmanuel Macron sera rendu en Iran. Et donc, il s'impose, et je crois que l'Allemagne risque de rejoindre la Grande-Bretagne aussi sur ce genre de dossier. Les Européens prendront des initiatives pour aller dire aux Iraniens, effectivement, que leur retour pose un problème, et que s'ils veulent être crédibles, il faut effectivement que de leur côté, ils fassent des réformes. Et que, certes, Trump bloque les investissements, mais aussi à l'intérieur, le fait qu'il n'y ait pas de réforme de structure importante au niveau de la corruption, au niveau de la transparence économique, fait que ça ne marche pas. Et donc, dire aux Iraniens, nous sommes prêts à vous aider, mais vous devez vous aider vous-même. Et du point de vue des droits de l'homme, on en parlait à l'instant, parce que actuellement, les entreprises se disent, l'Iran est un pays où on peut rien faire. Parce qu'à l'intérieur, ça bloque, et à l'extérieur, ça bloque. Et dans le rôle de la France, peut-être, du voyage de Macron, est de dire aux Iraniens, on peut vous aider, mais faites votre travail aussi. Et donc, soutenir la politique du Rouhani contre les plus conservateurs.
Alors, justement, Azadeh Khan, il nous reste 1 minute et demie pour terminer cette première partie d'émission. On poursuivra dans la deuxième partie, bien évidemment. Vous parliez de régime qui se durcit. Ces manifestations qui se sont aujourd'hui calmées, on en reparlera peut-être plus en détail. En tout cas, elles ont révélé, quant à la réponse de l'État à ce qui s'est passé ces dernières semaines, révélé de profondes fractures dans l'establishment politique. Thierry Coville, on se retrouve face à un establishment extraordinairement divisé. Et finalement, la fenêtre qui s'ouvre pour Rouhani, elle est extrêmement étroite.
Oui, je pense que je lisais un article dans un grand quotidien du soir, je ne citerai pas le nom, où il disait que Rouhani a gagné, tirerait avantage de cette crise. Au moins, je pense que, alors là, faut rester très prudent. Je pense que ce qui est très clair, c'est que les deux grands courants en Iran, les durs et puis les modérés, étaient complètement en dehors de cette crise, qui va bénéficier de cette crise, mais qui va en tirer avantage, je pense qu'il est très tôt pour le dire. Et là, je suis assez d'accord avec le fait que ça va dépendre. Alors, bon, moi, je suis pas iranien, mais je trouvais que Rouhani a eu les mots justes. Il a dit que les gens qui étaient dehors, ils comprenaient pourquoi ils étaient dehors, qu'ils étaient dehors pour des questions économiques.
Mais il s'est rétracté, c'est ça le problème. Rouhani s'est rétracté.
Non, mais attends. Je termine. Je viens de dire que, justement, ce que les Iraniens sans doute attendent, c'est de l'action.
de l'action. On reviendra.
Mais ça va. Mais aussi, il faut pas non plus tout mélanger. Je suis d'accord avec ce qui se dit, mais il y a eu un accord sur le nucléaire. Il est respecté. Ça a déjà été assez dur à conclure. On va quand même pas commencer à dire aux Iraniens, écoutez, vous transformez pas une économie qui est bloquée depuis 30, 40 ans. Donc cet accord n'est plus valable. Je pense que, je dis pas que l'Iran de fer.
C'est
les...
pas ça, quoi.
Non,
on
mais je
dis,
ça va prendre du temps.
Thierry Queville, on redémarre avec vous. Géopolitique, nous retrouvons Thierry Queville, Bernard Hourcade et Azad Ekian dans quelques instants.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'Iran. Nous retrouvons nos invités, Azad Ekian, professeure de sociologie et directrice du CEDREF, le Centre de documentation et de recherche en études féministes, à l'Université Paris Diderot Paris 7, auteur de nombreux ouvrages dans la République islamique d'Iran aux éditions Michalon et l'Iran, un mouvement sans révolution également chez Michalon. Bernard Hourcade, directeur de recherche au CNRS, auteur de Géopolitique de l'Iran paru chez Armand Collin. Et Thierry Queville, économiste, chercheur à l'IRIS, auteur de Iran, la révolution invisible aux éditions La Découverte et co-directeur pour la revue internationale National des études du développement du numéro intitulé L'économie politique de la République islamique d'Iran aux éditions de la Sorbonne. Thierry Queville, on a terminé la première partie de l'émission en évoquant, après avoir longtemps débattu sur la question du nucléaire iranien, les raisons quant aux manifestations qui se sont déroulées fin décembre et début janvier en Iran. Des raisons nombreuses quant à ces manifestations. Les plus fortes concernent la performance économique du pays, particulièrement les restrictions dans le budget du président Rouhani. Alors, ni révolution, ni mouvement politique, en tout cas, cette crise, elle est une explosion des frustrations croissantes du peuple iranien face à la stagnation politique et économique.
Oui, tout à fait. Je pense que il y a à la fois des raisons économiques, les deux grandes raisons qu'on voit, parce que l'inflation a un peu ralenti en Iran, elle est maintenant à 10%, ce qui reste élevé, mais c'est le chômage, notamment le chômage des jeunes diplômés, à peu près 700 000 nouveaux masters chaque année en Iran, grande partie font des petits boulots, donc il y a un vrai énorme problème. Hein. Les jeunes font des petits boulots, ils cherchent à partir, notamment aux États-Unis, ils peuvent pas aller aux États-Unis, enfin, ils sont coincés, et dans ces petites villes, je pense qu'ils ont encore moins de possibilités de faire des petits boulots. Donc c'est vraiment des espérances. Et puis il y a un énorme problème en Iran dont tout le monde parle. Ça qui est positif en Iran, c'est qu'au moins on parle des problèmes, c'est l'absence d'efficacité. C'est-à-dire les institutions publiques, par la majorité de la population iranienne, sont considérées comme inefficaces et surtout injustes. Elles travaillent simplement pour des petits groupes proches du pouvoir. Quand ils parlent de la corruption, les Iraniens, ils parlent de ça. Également, l'autre problème, je pense qu'une partie des gens qui étaient dans la rue, il n'y a pas que les motifs économiques. Il y a aussi une déception par rapport à Rouhani. Les gens, ils commencent à en avoir marre. Hein. On entend des gens d'Iran qui disent, bon, écoutez, Rouhani, il est gentil, mais il nous parle de liberté et de démocratie tous les 4 ans. Un petit peu pour être élu. Donc, il y a une partie de la classe moyenne, c'était pas la majorité, mais qui était dans la rue et qui demande, il n'y a pas que des demandes de réforme économique, il y a également une demande de réforme politique et d'ouverture politique.
Alors, déception par rapport à Rouhani, je me tourne vers vous, Bernard Hourcade, Azad Ekian. Qu'est-ce que cela signifie dans le rapport de force entre les réformateurs et les conservateurs? Ces manifestations, on peut le souligner tout de même, il y a beaucoup de gens qui sont restés chez eux parmi les réformateurs. Il y avait une prudence évidente, puis peut-être aussi une volonté de ne pas mettre en défaut de façon trop accentuée le président Rouhani, Bernard Hourcade.
Tout à fait. Il y a en Iran une situation actuellement d'attente. La pression du nucléaire est un contexte. Ils ne savent pas trop où ça va aller. Ils voient aussi le fait que de renverser les régimes dictatoriaux, comme ça s'est passé en Égypte, en Libye, en Syrie ou ailleurs, posait beaucoup de problèmes. Et donc, la classe moyenne supérieure, en quelque sorte, qui défend la liberté et les idées générales que tout le monde défend par ailleurs, qui donne priorité là-dessus, avait une certaine peur de voir une révolution, je dirais, prolétarienne, des petites gens qui protestent. Et or, la classe moyenne supérieure est quand même dans le système et dit, Rouhani et un certain nombre de réformateurs, peut-être, pourraient changer les choses. Par ailleurs, tout le monde dit que le guide, bon, il a 79 ans, il ne va pas vivre encore 150 ans. Donc, beaucoup de choses, des gens disent, écoutez, les choses peuvent évoluer. Et désespérément, ils se raccrochent fort de mieux à ceux qui promettent une possibilité d'évolution, avec des désillusions. Et donc, quand il y a des illusions, il dit, on a voté Rouhani, on devait avoir l'Eldorado, regardez, 2 ans plus tard, rien n'est là. Mais un certain nombre de gens refusent de soutenir un mouvement qui risquerait de leur échapper. Parce qu'actuellement, si le mouvement dérape en Iran, ce ne sont plus les religieux qui vont contrôler, puisqu'ils sont au pouvoir actuellement, ce sont les gardiens de la révolution, les plus durs. Et donc, il y a une espèce de wait and see, d'attente en Iran. Le problème est que les Iraniens, en 40 ans de république islamique, sont devenus républicains. Moins islamiques, mais plus républicains. Donc, ils sont pas d'accord quand on leur prend leur vote. Ils sont pas d'accord quand on leur donne pas les promesses économiques qui étaient là. L'Iran est une vraie république aujourd'hui. Non pas par le gouvernement, mais par les gens dans la rue. Et donc ça, c'est un élément très nouveau que tout le monde doit prendre en compte à Washington ou à Paris. Et donc, il faut pas uniquement dire le ministre a dit ceci, le guide a dit cela, Rouhani a dit cela. Ça compte. Mais eux aussi, dans leur gouvernement, ont face à eux une population iranienne qui est massivement différente de ce qu'elle était il y a 40 ans. Mmh. Et donc de parler aujourd'hui de changement de régime après les émeutes de ces jours, si on dit le régime tombe dans 15 jours, dans 3 semaines, c'est n'importe quoi. En Iran, il y a un système politique qui bouge, qui a évolué. Sur le nucléaire, il n'était pas question de bouger il y a 10 ans et ils ont bougé. Donc il ne s'agit pas d'être naïf, mais il y a des rapports de force qui sont là. Et aujourd'hui, il y a en Iran 80 millions de républicains, ou disons 79 millions, et c'est un élément très important.
Azadekian, on a beaucoup parlé de la Syrie comme l'exemple qui a peut-être ralenti aussi ces mouvements de manifestation. Vu ce qui se passe en Syrie depuis 2011, c'est un facteur important d'après vous ?
Tout à fait, il ne faut pas sous-estimer le nationalisme iranien d'une part. D'autre part, les exemples, hein, vous avez l'Irak à côté, vous avez la Syrie pas très loin, vous avez l'Afghanistan à côté. Donc effectivement, les Iraniens ont décidé de ne pas déstabiliser le pays afin d'éviter le chaos. Ce qui ne veut pas dire que, par exemple, ces classes moyennes instruites qu'on a bien vues dans la rue en 2009 lors du mouvement vert et qui cette fois-ci sont restées à la maison, n'ont pas les revendications pour la démocratisation du régime et ne se sentent pas solidaires avec les jeunes de classe populaire qui étaient dans la rue. Mais le régime justement aussi a tenté de profiter de cette situation. Quand par exemple l'Ayatollah Khamenei a fait son intervention 4 jours après le début des émeutes pour dire qu'il y a les États-Unis, l'Arabie Saoudite, Israël qui commanditent ces émeutiers. Et ce que je veux dire, c'est que les tweets de Donald Trump, les interventions de Trump ont été très contre-productifs, hein, puisque effectivement, il a donné le prétexte nécessaire aux dirigeants iraniens de mettre à l'index les manifestants en disant que vous êtes en rapport avec les États-Unis. Ce qui, ma foi, a créé aussi une sorte de réserve chez les classes moyennes instruites qui ont commencé à se poser la question de savoir si effectivement ces émeutes ne sont pas un peu aussi dirigées par l'extérieur. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que les Iraniens souhaitent des changements profonds, mais sans la violence. Et je ne pense pas qu'il faille s'attendre à une deuxième révolution. Déjà, beaucoup de jeunes, par exemple, aujourd'hui, ne sont pas non plus en faveur d'une révolution, mais en faveur des changements. Mais des changements, comme on l'a dit, structurels, des changements profonds. Il faut quand même pas oublier qu'une vingtaine de personnes a été tuée lors de ces manifestations et que 3 prisonniers ont été également tués en prison. Donc, ce qui veut dire que, au lieu de répondre favorablement à ces revendications-là, ce qu'on constate, c'est que la répression continue. Et donc, ça ne présage pas le changement que les Iraniens demandent et ils ne peuvent pas attendre 120 jours. Mmh. Je veux dire que ces populations qui étaient dans la rue attendent aujourd'hui des mesures rapides. Ce qu'on a constaté, c'est que effectivement, le président Rouhani a fait une intervention très juste à mon égard quand il a dit que les manifestations sont légitimes, les revendications sont légitimes. Il ne s'agit pas seulement d'ailleurs de revendications économiques, mais également sociales et politiques. Il faut ouvrir politiquement aussi le pays. Mmh. Et 2 jours après lui, c'est le guide qui est venu dire non, ça a été commandité par l'étranger, on change rien. Mmh. Et depuis, on n'entend pas, ma foi, beaucoup Monsieur Rouhani. Il ne faut pas oublier qui sont les électeurs de Rouhani. Ce sont les jeunes dont une partie était dans la rue, ces étudiants, ces femmes qui sont aujourd'hui très, très déçues. Quel est le bilan de Monsieur Rouhani? On ne peut pas tout mettre non plus sur le compte des sanctions américaines. Je suis désolée, en Iran, il faut aussi commencer peut-être des changements à l'intérieur.
Ce qui se dit depuis le début de l'émission. Alors, on peut juste rappeler que 2018 marque le 40e anniversaire du processus révolutionnaire qui aboutit au départ du Shah en 1979. Vous l'avez dit, la société iranienne évolue et elle se détache de façon peut-être irréversible des fondements de la République islamique. Le régime a-t-il aujourd'hui conscience de se trouver dans un climat d'insécurité et de la nécessité impérieuse d'évoluer, de se réformer? Et quelles sont, d'après vous, les priorités?
Je crois que c'est important de ne pas oublier qu'en 78, les slogans de la révolution, c'était indépendance, liberté, république islamique. Et aujourd'hui, on a vu que c'est l'islamique qui l'a dominé pendant 40 ans. Et les gens disent, le compte n'y est pas. On a fait la révolution, il y a 40 ans, pour quelque chose de beaucoup plus global. Et donc, cette idée d'être, faire une vraie république libre et indépendante reste très forte en Iran. Et donc, c'est un élément très important, je crois, de voir cela et de constater que l'Iran est aujourd'hui en train de sortir de l'islam politique. Ils ont fait 40 ans d'expérience de l'islam politique. Ce premier pays de la région à avoir fait cette expérience. Ils en peuvent en faire la part des choses. L'islam est quelque chose de très important. C'est une composante de la vie politique, mais pas 90% de cette vie politique. Et les Iraniens, même les religieux, l'ont compris. Mais certains intérêts économiques et de classe sont tellement forts qu'effectivement, les gens ne bougent pas, on ne change pas un système en quelques jours. Donc aujourd'hui, l'enjeu est de dire, et la question est de savoir, je suis d'accord avec Azadeh sur le fait que Rouhani peut-être est vraiment un peu modéré, c'est le cas de lui dire, passer à l'action, comme Kirill disait tout à l'heure, si vous ne faites pas des changements, ça se passera mal. Donc si vous voulez garder le pouvoir, vous, monsieur le guide, vous avez intérêt à accepter, à me donner les moyens d'agir, c'est-à-dire à accepter de perdre un certain nombre d'avantages, etc. Et les manifestations de ces derniers jours, donc je suis un peu d'accord avec les analyses qui ont été faites dans les journaux ces jours-ci en disant ces événements peuvent servir Rouhani, oui, à condition qu'effectivement ils prennent la balle au vol et prennent les décisions, mais ça, ce n'est pas nous qui pouvons en décider.
Thierry Coville.
Oui, alors, il faut bien voir, pour répondre à votre question, les deux groupes en Iran. Alors, je pense que les durs en Iran, leur légitimité déjà pas élevée, mais les réponses qu'ils donnent à cette crise, leur légitimité, leur crédibilité est zéro. En plus, les Iraniens savent très bien, les durs sont en train de dire ce qu'ils disent à Rouhani, vous voyez, il y a des problèmes économiques, les gens protestent, mais vous voyez, les Iraniens, ils ont quand même eu les radicaux au pouvoir. Alors, c'était Ahmadinejad. Pendant 8 ans, ils ont vu que la situation économique avec les solutions populistes, entre guillemets, d'Ahmadinejad, c'était une catastrophe. Donc, ils sont pas prêts à revoter pour les durs en Iran. D'ailleurs, ils l'ont montré, lors dernière élection présidentielle, ils veulent pas des durs au pouvoir. Effectivement, la balle est dans le camp de Rouhani. Le problème, c'est quand même, les réformateurs ont très mal géré cette crise, donc, qui sont les alliés de Rouhani. Certains ont même critiqué les gens, parce qu'ils comprennent pas ce mouvement. Et je pense qu'il y a une, c'est pas simple aussi. Ça concerne pas que l'Iran. Rouhani doit trouver les moyens de calmer cette colère, donc de trouver un enchaînement de réformes économiques et politiques. À la fois, il y a des choses à faire dans le long terme, mais à la fois d'en faire dans le court terme. Il a en face de lui des adversaires puissants qui contrôlent une partie de l'économie, qui payent pas d'impôts, qui ont des intérêts rentiers, si vous voulez. Donc je n'excuse pas Rouhani, je dis pas ça, mais c'est vrai qu'il doit agir. Ce qu'on sent en Iran, c'est on a voté une fois pour Rouhani, il y avait les négociations sur le nucléaire, on lui redonne sa chance. Si ça continue comme ça, c'est vrai qu'il peut y avoir une fatigue. Et ça, je suis d'accord. Le risque pour le régime, il est là. C'est cette société, elle veut le changement. Elle veut le changement pacifique, donc elle préfère aller voter. Il y a quand même 40 millions d'Iraniens qui ont voté aux dernières élections présidentielles. Ils veulent pas un changement de régime. C'est stupide de dire ça. Mais s'il n'y a pas des réponses concrètes, parce que les gens, ils veulent que le système de santé marche mieux. Ils veulent qu'une justice, enfin, il y ait moins de corruption à la justice iranienne. Ils veulent une véritable privatisation. Ils veulent des réponses concrètes. S'il n'y a pas ces réponses concrètes, les gens vont se fatiguer. Je pense que le principal risque, c'est qu'ils arrêtent de voter. Et là, effectivement, on va avoir un retour de type Ahmadinejad ou des durs en Iran.
Alors, pas de révolution, on l'a dit, et vous l'avez bien expliqué, Azadeh Khan. Est-ce qu'on peut imaginer le régime imploser lui-même?
Oui, écoutez, ce qu'on a en tout cas constaté comme suite à ces émeutes récentes et la prise de position de la majorité des réformistes qui soutiennent Rouhani, effectivement, c'était de ne pas soutenir le mouvement, ni d'ailleurs les revendications légitimes de la population, à part une infime minorité des réformistes qui a pris position pour la rue. Ce qui fait que depuis le début de la République islamique jusqu'à aujourd'hui, c'est un régime factionnel. Donc il y avait une sorte d'alternance entre différentes factions. Les conservateurs, les ultras, les réformistes, les modérés, tout ce que vous voudrez. Aujourd'hui, les réformistes ne sont plus une alternative politique, parce que on a bien vu qu'ils n'ont pas soutenu les revendications des électeurs et surtout des classes populaires, des classes ouvrières qui étaient dans la rue, notamment au début des manifestations. Et donc ça laisse, à mon sens, un vide politique. Et c'est là que la question devient risquée pour le régime islamique, risquée pour ses factions, parce que les mécontentements vont continuer. Ouais. Et que, bon, on a dit, Rouhani n'est pas prêt, les autres non plus, à introduire des changements rapidement comme c'est souhaité par la population. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce sont des pastarans, les gardiens de la révolution, qui effectivement vont dire, bon, écoutez, maintenant, on a assez rigolé, c'est nous qui allons prendre le pouvoir, ou est-ce qu'il y a d'autres scénarios? Je n'en sais rien, personne n'en sait, mais en tout cas, on en est là. Et donc, cet espoir de changement à travers le vote, à l'intérieur des factions, c'est fini.
Bernard Orcade.
En Iran, pour qu'il y ait un changement dans n'importe quel pays, il faut qu'il y ait un consensus social exceptionnel. Bon, à la révolution en 78, c'était les gens pour les droits de l'homme, pour l'indépendance, contre le régime despotique du Shah, qui ont fait un consensus et qui ont fait la révolution. Aujourd'hui, pour un changement profond, il aurait fallu que ceux qui ont manifesté en 2009 pour la liberté, etc., et ceux de la semaine dernière, soient unis. Ça n'a pas été le cas. On voit une espèce d'opposition de classe, en quelque sorte.
Il y avait des manifestations essentiellement urbaines en 2009, oui, c'était un petit peu moins le cas,
etc.,
cette fois-ci.
Et donc, on voit une coupure de l'Iran en deux. Et les gens qui sont en place, nos amis amis, entre guillemets, démocrates en Iran, qui ont manifesté en 2009, ils sont finalement assez aisés sur le plan économique par rapport aux autres. Et donc, on a cette rupture qui pose problème parce que, comme les aides disaient, il n'y a plus de consensus national. Et là, l'hypothèse que, voyant que le clergé ne réussit pas, les réformateurs ne réussissent pas, les populistes ne réussissent pas, les gardiens de la révolution, qui sont une force qui existe, qui est forte, qui est solide, qui est cohérente, peut dire, ben, écoutez, vu la situation d'anarchie, je me propose de sauver la patrie, de sauver la République islamique. Avec une différence qu'il faut bien noter, que les gardiens de la révolution, c'est pas un groupe homogène. Il y a beaucoup d'anciens gardiens de la révolution qui, je l'en disais tout à l'heure, ont fait la révolution pour indépendance, liberté, république. Quand ils avaient 20 ans, ils en ont 60 aujourd'hui. Donc, c'est un groupe hétérogène, et ça ne veut pas dire forcément que si des gardiens de la révolution arrivent, ce sera un régime fasciste en Iran.
Alors, je sais que Azadeh Kian et Thierry Queville, vous souhaiteriez
prolonger. Très rapidement, je voulais dire qu'effectivement, l'ensemble des électeurs de réformistes qui étaient dans la rue en 2009 n'est pas dans une situation aisée, loin de là, et que la situation économique actuelle de l'Iran a fait qu'il y a beaucoup, moi j'en connais pas mal d'entrepreneurs, petits entrepreneurs, moyens entrepreneurs, qui ont fait faillite, qui ont vraiment du mal à survivre. Donc, ils n'étaient pas nécessairement dans la rue, mais ils se sentent réellement solidaires avec ces jeunes issus des classes populaires qui étaient dans la rue.
Mais ils n'ont pas manifesté.
Parce qu'ils ont peur, d'une part, et pour ne pas déstabiliser le pays, etc. Ouais. Mais la réponse du régime tarde à venir, et donc ils risquent aussi de s'ajouter à cette population déjà très démunie et très contestataire.
Thierry Queville.
Oui, Rouhani est un peu coincé. D'ailleurs, toute la gauche iranienne est un peu coincée parce que leur programme économique est très classique. Ils veulent ouvrir l'économie iranienne, privatiser l'économie. Donc, c'est ce sur quoi s'est engagé Rouhani. Ils pensaient que ça allait régler tous les problèmes. Salué d'ailleurs par le FMI. Hein. Donc, le problème, c'est que, à mon avis, c'est une partie de la gauche iranienne, c'est qu'ils sont engagés dans les programmes classiques de libéralisation de l'économie, de privatisation, sans prendre en compte toutes ces attentes énormes. On peut pas dire aux gens, on connaît ça en France, attendez, ça va aller mieux dans 2 ans, 3 ans, vous êtes au chômage, vous allez voir. Donc là, il y a un vrai problème. Par contre, là où c'est pas une question d'être optimiste, pessimiste, dans la presse iranienne, quand on va en Iran, toute l'expertise est là. Je veux dire, le constat, comment on peut faire, c'est compliqué, mais lier les réformes économiques et politiques en prenant en compte toutes ces revendications dans la presse iranienne. Alors, c'est pas les gens qui sont élus encore de temps en temps, mais toute cette expertise est là. Donc, je pense qu'il y a un moment en Iran, il faudrait peut-être leur donner un petit peu la parole. Ces experts qui sont derrière les réformateurs, ils savent très bien ce qu'il faut faire. Alors là où il y a un énorme problème de la représentation. Il faut qu'il y ait des représentants. Si c'est simplement on a ces réformateurs et des grands discours sur l'ouverture politique, complètement coupé, enfin un peu coupé de la base sociale, il faut des syndicats indépendants, il faut des vrais représentants du secteur privé. Alors ça commence sans véritable représentant d'institutions légitimes. On voit mal comment cette réforme compliquée va pouvoir se mettre en place par Rouhani.
Alors je sais que vous n'aimez pas le optimisme, pessimisme, mais enfin tout de même, pour conclure cette émission très rapidement, avec tout ce que vous avez évoqué, les blocages et possiblement cette mainmise des gardiens de la révolution sur le système iranien, que serait un Iran avec les gardiens de la révolution au pouvoir, Bernard Rocane.
Il y a aussi un autre pouvoir qui est important, c'est le Parlement, le Majlis. Le budget doit être discuté maintenant par le Parlement. Ces événements ont été déclenchés par le fait que Rouhani disait « Regardez, je ne peux pas gouverner, je ne contrôle pas l'argent de l'État ». Ça devra passer devant le Parlement, qui a la possibilité, parce qu'ils ont peur, les députés, de ne pas être réélus. Les députés peuvent, pour défendre leurs propres intérêts, être amenés à pousser dans le bon sens pour donner au gouvernement les moyens de prendre des réformes qu'il faudrait faire en demandant des changements drastiques dans le budget, en demandant par exemple que les fondations payent des impôts, un nombre de choses plus que symboliques qui pourraient être prises. Donc il y a plusieurs forces en Iran qui sont encore en action. L'Iran n'est pas un pays bloqué.
Azadeh Kian et Thierry Queville, extrêmement rapidement.
Déjà, maintenir le dialogue avec l'Iran de la part de l'Europe, ça c'est très important. Essayer d'investir davantage dans ce pays, essayer de faire face donc aux États-Unis, aux entraves posées par les États-Unis dans ce sens. Mais en même temps, je pense que la question de si le régime islamique est vraiment à l'écoute de la rue, ça reste entier.
Oui, je pense que du côté européen, il faut sortir des schémas, il faut poser le bon diagnostic. On a vraiment une société qui pousse par le bas, comme l'a dit Bernard, pour le changement économique et politique. Face à ça, il faut une nouvelle politique étrangère, quelque part. Arrêter de choisir les bons contre les méchants, etc. Je pense qu'il faut réfléchir à un niveau de discours, comment aider intelligemment, c'est pas évident, mais intelligemment, la société civile iranienne de la part des Européens.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Azadeh Kian, professeur de sociologie à l'Université Paris Diderot Paris 7 et auteur de plusieurs ouvrages, dont La République islamique d'Iran et l'Iran Un mouvement sans révolution aux éditions Michalon. Bernard Ourcade, directeur de recherche au CNRS et auteur de Géopolitique de l'Iran, Charmant Collin. Thierry Queville, économiste et chercheur à l'IRIS, auteur de Iran, les révolutions invisibles aux éditions La Découverte et co-directeur pour la revue internationale des études du développement du numéro intitulé L'économie politique de la République islamique d'Iran aux éditions de la Sorbonne. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur notre application Pure Radio et sur notre site internet rfi.fr. Géopolitique, le débat, émission cinéma et France Chatin, Véronique Durand, Nathalie Laporte. Samedi prochain, Géopolitique sera consacré aux États-Unis, un an jour pour jour après l'entrée en fonction de Donald Trump.